Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Ah, je vous en prie.
Mais ça fait des années qu'il fait ça.
Depuis le début.
On doit en avoir marre, Clara.
S'il vous plaît, on peut parler.
Pardon.
Oui, pardon, allez-y.
Bon. Ce matin, dans le bureau de Par Jupiter, ça parle potin.
Eh bien, moi, je crois qu'Alex, il a vraiment le béguin pour Clara.
Alors voilà, là, voilà. Peu me chaud.
Au début, j'ai cru qu'il faisait semblant.
Ah, c'est pas clair.
Diantre, mais pourquoi s'intéresse-t-elle à ça?
La semaine dernière, elle a fait exprès de s'installer sur son bureau.
Mais sapristi, c'est vrai?
Et elle a laissé son foulard délicatement posé sur son écran.
Mais oui!
C'est fini pour moi.
Ah, les amis, je me sens d'humeur romantique aujourd'hui. J'espère que Clara est là.
Tu veux dire, pour pouvoir lui déclarer ta flamme?
Mais non, parce qu'on reçoit Michel Esco, un super comédien qui joue dans La Dame de chez Maxime de Feydeau, ça va lui plaire.
Ciel, à votre ville!
Oh, c'est vrai qu'il n'y en avait pas assez dans le bureau.
Ah, mes amis, je me sens d'excellente humeur aujourd'hui.
Clara! Mais c'est fini cette porte qui claque, oui? Non, mais Clara, tu es déjà là.
Oui, bah j'étais un petit peu en avance aujourd'hui, alors je me suis dit que je viendrai un peu plus tôt pour profiter de vous.
Mmh, et surtout d'Alex.
Mmh. Oui, et de Guillaume aussi.
Diable, elle va nous compromettre.
Qui a récupéré mon foulard.
Mais... Clara! Ça fait des années que j'essaye d'attirer ton attention. Je me suis même abonné à Ménestrel Magazine pour toi. Allez, viens!
C'était donc ça! Elle m'a piqué mon Guillaume!
Eh ben ça alors! Quelle journée!
Au théâtre radiophonique ce soir! Bonjour la France Inter, une pièce interprétée notamment par Alex Vizorek. Et vous écoutez la start-up.
Pourquoi vous ne dénoncez que moi?
Vous écoutez la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour: l'enfer est pavé de bonnes disruptions. Et voici le menu 3 plats. Le procès de Jean-Luc Mélenchon pour rébellion souffre aujourd'hui. L'épisode La République c'est moi va se solder par ce qu'il appelle un procès politique où il se pose en loula français.
Mais si vous se rendez l'évidence, ce type est parfait comme tout le monde.
Le mot de la semaine est un mot anglais, le male gaze, le regard masculin dominateur porté sur la femme dans tous les arts en général, qui fait de cette femme un objet de désir pour le seul plaisir des hommes.
Est-ce que vous croyez que la femme a un rôle à jouer dans la société moderne?
Oui, si elle est charmante.
Le fils de Françoise Sagan a retrouvé un roman inédit, publié aujourd'hui 15 ans après la mort de l'écrivaine.
Les gens l'aiment beaucoup. C'est comme les Didi. Les gens l'adoraient, et même moi.
Ah oui.
D'ailleurs, plus elle est morte, plus les gens l'adorent.
Alex Vizorek, quel est le tiercé dans l'ordre chez les chroniqueurs?
Eh bien, nous allons commencer à 17h20 dans cette belle équipe. C'est aussi grâce à elle que France Inter a fait des résultats exceptionnels cet été. La blonde platine aux audiences en or, c'est Mélanie Bauer, bonjour.
On ne sait pas, j'ai demandé les chiffres, ils n'ont pas voulu me les donner.
Ils sont ce matin, mais vous n'êtes pas au courant. Vous êtes première
radio de France. Si, 1 700 000.
Ah oui, c'est grâce à vous, je me suis renseigné.
Je vous emmène en Inde.
On peut y aller?
Je vous emmène en Inde aujourd'hui.
En Inde, musique indienne, 17h30, il était schizophrène, il se poserait des questions toute la journée pour s'auto-prouver qu'il est moins cohérent que lui-même. C'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Et ben moi, je suis allé dans un grand salon consacré au divertissement. Je me suis bien amusé et il y avait plein de trucs rigolos, dont Alex Vizorek qui travaillait.
Non, il n'a pas encore vu. Hein.
Non, nous non plus.
J'ai eu peur. À 17h40, celle qui est capable de dénicher un bon livre perdu au dernier étage d'une bibliothèque poussiéreuse, alors qu'elle peut passer totalement à côté d'une passion ardente qui se trouverait assise à côté d'elle, à sa droite précisément, c'est Clara Dupont-Mono. Bonjour.
Bonsoir.
Voilà. De quoi on va parler?
On va parler d'accueil, on va parler de bras ouverts et on va parler de bienveillance.
Ah, ça ne vous concerne pas donc,
oui,
Alex. Et voici celui qui va occuper l'open space, hashtag Occupy Jupiter. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Michel Esco.
Oui, mais grave, c'est lui.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Michel Esco.
Merci, merci beaucoup.
Qui a pris une grande leçon de votre ville dans le sketch d'ouverture.
Effectivement. Michel Esco, vous êtes avec nous maintenant, en direct. Vous jouez ce soir, comme tous les soirs, La Dame de chez Maxime, d'après la pièce de Georges Feydeau, mise en scène de Zabou Breitman. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Alex Vizorek est allé vous voir hier soir précisément.
Il était hier, le pauvre, il lui arrivait que des merdes pendant toute la soirée. La première de cette pièce, qui est un énorme classique, 1899, Fedot a même dû écrire une suite tellement ça a eu du succès. Moins connu.
Moins connu, ouais, je crois que c'est pas très souvent joué, ça. Ouais,
non, mais en tout cas, celle-ci, c'est peut-être une des pièces les plus jouées en France par les troupes amateurs et aussi les pros. Il y en a, moi, j'en ai vu une l'an dernier et on en voit souvent. Le vaudeville, c'est très difficile à jouer, comme on a pu l'entendre dans le petit sketch d'ouverture.
Pas si mal, pas si mal.
Comment est-ce qu'on s'attaque à ce personnage culte de Monsieur Petitpont?
Alors, il faut regarder la situation, en fait. Moi, je peux me référer à plein de gens qui l'ont joué avant, ça me dérange pas du tout, mais...
Vous les avez regardés?
Oui, on regarde, oui. Comme maintenant, il y a plein de choses sur Internet, on peut... Puis j'en avais vu, des mises en scène de La Dame de chez Maxime. On oublie un peu, parce qu'on est tellement dans le cœur du sujet, il faut travailler les situations, et en fait, il faut pas essayer d'être drôle au départ, il faut vraiment jouer ce qui est écrit. Et plus je suis, moi, dans un drame et un cauchemar, plus c'est drôle pour les spectateurs, donc... C'est pénible à répéter, mais c'est...
J'allais dire, parce que on vous a connu notamment pour Ivanov de Tchekhov à l'Odéon, ça ne se prépare pas de la même manière.
Non.
Comment on rentre dans ce personnage-là par rapport à l'autre?
Mais je ne sais pas si on rentre dans un personnage ou dans une écriture, et finalement, c'est pas tellement...
Et le plaisir d'acteur, il est le même?
Oui, le plaisir d'acteur est le même, c'est dans la beauté de ce qu'on a à jouer, en fait, dans la force de l'écriture, et c'est vrai que bon, ce que je jouais dans la pièce de Tchekhov, il n'y a pas tellement de quiproquo ou des choses comme ça, quoique...
Moins précis,
moins rythmé, on va dire. Les temps étaient plus longs.
Exact.
Voilà. Mais finalement, non, on a autant de plaisir à... Oui, c'est vrai.
Mais quand vous dites les temps plus longs, c'est ça où je voulais en venir, la partition, elle est tellement précise chez Fedot que... On imagine moins le plaisir d'acteur, on est plus dans une efficacité, dans une concentration. Et donc le plaisir de vivre la scène, comme on peut le vivre chez Ivanov, vous pouvez prendre un temps plus long et ça va marcher.
Oui, mais on n'est pas non plus dans le kiff absolu quand on joue Ivanov et qu'on traverse des choses aussi douloureuses. Donc finalement, même le plaisir quand on joue, c'est après la représentation, quand ça s'est bien passé. Si on commence à l'apprendre si on commence à penser au plaisir pendant qu'on est en train de jouer, on va rater juste la réplique qu'on a.
Écoutez ça, Alex.
On va se planter. Donc,
mais Fedot lui-même fait allusion au cabotinage, notamment du personnage de la môme crevette, parce que il dit dans une des didascalies que si elle est cabotine, quand elle chante, elle peut se retourner vers le public, mais qui ne le conseille pas vraiment.
Non.
Et donc oui, on peut pas être un cabotin pour jouer ça.
Ah, pas trop, non. Enfin, je crois qu'on rate quelque chose à ce moment-là. Non, il faut pas être au-dessus du texte. Il faut vraiment jouer la situation. Mais c'est comme dans tous les films qu'on adore où on voit un personnage vraiment dans le pétrin. Ce qui nous amuse, c'est de le voir s'embourber, quoi, finalement.
Je dirais que votre plus-value d'acteur, c'est aussi c'est le travail du corps qui est très présent chez vous et dans vos idoles. Vous citez Gene Kelly, Fred Astaire, Jim Carrey.
Oui.
C'est quelque chose qui vous est venu naturellement, c'est quelque chose que vous avez travaillé, parce qu'on vous voit souvent par terre, debout, vous vous tortillez dans tous les sens. Vous êtes grand?
Oui, je suis grand, Non, je l'ai travaillé. J'ai travaillé. Au départ, on vous dit vous êtes maladroit, tu sais pas quoi faire de ton corps, et puis petit à petit, comme on apprend un peu à le domestiquer, je sais pas, à l'apprivoiser, après on vous dit c'est une force, c'est bien, c'est un plus, mais non, ça se travaille en fait.
Mais c'est vrai que Jim Carrey, c'est pareil.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, Zabou, elle a profité de ça, ou c'est vous qui lui faites les propositions en lui disant c'est peut-être mieux si là on me tire sur une jambe quand je rentre?
Je crois que c'est un dialogue, comme on s'entendait très bien, voilà, elle propose des choses, moi aussi, et puis voilà,
Je vais raconter un tout petit peu l'histoire pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Mongicourt, un docteur, vient chez son ami médecin Petitpont. Il voudrait bien le réveiller, mais l'autre ne le réveille pas. Il est midi, il n'a pas l'habitude. Et pour finir, il le trouve bourré comme un coin. Sa femme passe, veut lui faire une camomille. Et surtout, le vrai problème, c'est que dans son lit, il ne s'en souvient même plus. Il y a la môme crevette. Et puis de là, par
Léa Drucker,
par toute une catastrophe avec ce personnage formidable, notamment du général, qui est l'oncle et qui... prend tout de suite la môme crevette pour la femme de l'autre. Et là,
André Marcon.
On est parti dans le vaudeville absolu. Est-ce que la force justement de l'écriture de Fedot, c'est de rendre crédible l'improbable total?
Oui, complètement. Oui. Mais finalement, c'est assez réaliste. C'est-à-dire que c'est pas naturaliste, parce qu'il faut pas jouer ça comme genre passe-moi le beurre, mais par exemple les situations sont, il faut les jouer très de manière réaliste, pas naturaliste, pas en essayant d'avoir un jeu télé ou je sais pas quelque chose comme ça, mais par contre ça a l'absurdité du quotidien, quoi, je trouve.
À pousser à l'extrême tout de même.
C'est à l'extrême dans des situations extrêmes.
Ah oui, Charlie.
Est-ce que vous savez comment Zabou Breitman a pensé à vous pour ce rôle?
Ah non.
Non, elle vous l'a pas dit.
Non.
Vous cherchez pas à savoir.
Non.
Ben non, oui, on le sait. Vous étiez pas cher.
Ah, c'est ce que ça, vous avez dit. Ah, aussi, bien sûr. Ça, c'est à chaque fois, de toute façon. Ça, c'est pour toutes les pièces que je fais. Mais elle, je crois qu'elle avait envie de trouver son petit point. Elle a pensé à moi. Et voilà, après, moi, je.
Vous ignorez vraiment où elle vous a vu?
Ah, non, mais je la connais depuis longtemps. Et puis, on avait envie de travailler l'un avec l'autre depuis longtemps. Après. C'est dans sa tête. Elle m'a imaginé dans ce rôle. Moi, j'ai du mal à me projeter dans les rôles avant qu'on me les propose. Je me dis pas, je vais jouer tel rôle ou tel rôle. Je sais pas. J'attends que ce soit une proposition avec des partenaires, tout ça. Et après, par contre, j'ai pas du tout réfléchi. Quand elle me l'a dit, j'ai dit oui.
Il va falloir sortir donc de ce rythme parce que vous allez jouer en attendant Godot après.
Oui.
Donc là, il va falloir que les portes qui claquent, tout ça, il faudra y aller plus mollo. Hein.
Ouais, promis.
Michel Escaut, c'est donc la dame de chez Maxime, d'après Georges Feydeau. Mise en scène de Zabou Breitman au théâtre de la Porte Saint-Martin avec, on l'a dit, Léa Drucker dans le rôle de la môme crevette. Il y a André Marcon. Faire attention parce qu'il suffit d'inverser deux lettres. On
évidemment.
Est quand même très très tenté.
Par rapport au président de la République,
Éric
vous voulez dire.
Éric Christophe Pahou ou Anne Roger, entre autres. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. Et puis, là j'envoie un disque normalement. Ouais.
Là il y a une musique qui part.
Oui, c'est ça. Généralement quand j'agite le bras, j'explique à l'auditeur, parce qu'on se moque souvent de moi, c'est visuel. Je fais l'hélicoptère avec mon bras.
Avec ce bras, voilà. Oui, bien sûr. Mais oui.
Allez, ce qui signifie qu'on envoie le disque délicatement sous ma voix.
Allez bien.
Voilà. C'est le cas. C'est ce que je viens de faire pour écouter Stevie Wonder.
Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind. Men wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who are they? Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day. Sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of grace, relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending their life living in a future paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Let's to our lives living for the future paradise. Change to
Time Paradise, Stevie Wonder, alias Étienne Wonder pour les Français. 17h21
Étienne Wonder.
Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, le comédien Michel Escaut est avec nous pour La Dame de chez Maxime au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et pour l'entourer, Alex.
Eh bien, Mélanie Bauer pour la musique, Guillaume Meurice pour la mauvaise foi et Clara Dubomano pour les livres.
C'est vrai. Et information pour être un peu moins con.
C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui et ça m'a fait de la peine pour elle et peut-être qu'on peut les laisser tranquilles maintenant.
Le journal de presque 17h17.
Partir à l'aventure avec votre copain, ça vous plairait?
Comment?
Le procès de Jean-Luc Mélenchon pour intimidation et rébellion contre l'autorité judiciaire. Ce procès s'est ouvert aujourd'hui malgré la demande de renvoi du parquet.
Ça prouve au moins la séparation du pouvoir et de la justice.
Pardon ?
Mais Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est lui ! Mais la justice, c'est pas lui !
Ah, d'accord. Les pensions alimentaires impayées pourront être versées par la CAF dès juin 2020.
Oui, David Hallyday et Laura Smet auraient appelé le Standard pour savoir si c'est rétroactif.
Et les brèves ?
Les brèves ! C'est moi !
Ça fait peur.
À la technique Jérémy Guillon, que je demande de se reculer un petit peu, comme vous tous auditeurs, car il sera question de Jean-Luc Mélenchon dans ce journal. Et donc, voilà. C'est donc l'événement du jour.
Oui, le procès de Jean-Luc Mélenchon et de 5 autres insoumis. Il a été retardé pour un problème de clé USB.
En effet, la clé USB était formatée pour des Mac, alors que l'ordinateur était un PC. Il était donc incompatible.
Mais oui, c'est un peu le problème de toute la vie de Jean-Luc Mélenchon avec le PC. C'est incompatible.
Rappelons qu'à ce procès, c'est Éric Dupond-Moretti qui représente les policiers et les magistrats.
Oui, Mélenchon face à Dupond-Moretti, on dirait la finale du championnat de France des mauvais perdants.
Passons à droite.
Oui, Rachida Dati était sur Europe 1 ce matin pour s'affirmer comme candidate à la mairie de Paris pour la droite, pour les Républicains, et donc de parler, comme il est de bon ton à droite,
des migrants.
Ah oui, non, comment vous savez?
Ah bah.
Hein, tu parler de ça.
Vous avez bien vu que l'Est parisien et le Nord parisien sont très infectés, très impactés par ces sujets-là.
Ça c'est vraiment joli lapsus.
Immigration, toujours. Ouais, le député Mathieu Orphelin, ancien membre du groupe LREM, désormais non inscrit, a décidé de céder son temps de parole à l'Assemblée, au Rassemblement National, pour faire un geste démocratique.
Et oui, et dans les médias, c'est un peu pareil. On le fait depuis longtemps. Il y a plein de vrais journalistes qui semblent avoir des gestes démocratiques en laissant du temps de parole à Éric Zemmour, par exemple.
International. Oui. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est embarrassé par la publication d'une vieille photo de 2001 où on le voit arborer un blackface, c'est-à-dire le visage maquillé de noir.
Oui, enfin ça va, au Canada le Premier ministre se maquille le visage alors qu'en France un ancien président maquille ses comptes de campagne.
Oui.
Voilà,
oui,
ou le président actuel s'est maquillé en homme de gauche, bon voyez, c'est des détails.
Russie, oui. Un chaman qui avait entrepris de faire 5000 km à pied vers Moscou pour exorciser Vladimir Poutine, a été arrêté et renvoyé dans sa région d'origine en Sibérie orientale.
Ah bah, et vu que son emploi du temps s'est un peu libéré, j'ai peut-être une idée de quelqu'un qui pourrait venir exorciser. Quoi.
La République, c'est moi.
Voilà, hein, s'il passe par là.
Une page média, car une émission de télévision marocaine a été suspendue après qu'un intervenant, le chanteur Adil El Miloudi, a déclaré « Celui qui ne tabasse pas sa femme n'est pas un homme ».
Eh oui, toujours en recherche d'emploi, Tech serait proposé ses services à cette chaîne pour une émission « Les Inch'Allamour ».
Allez, c'est une
proposition. Les propriétaires du château de Volvicomte ont été séquestrés et volés. Le butin est estimé à 2 millions d'euros. Et bien, c'est tout l'inverse de l'histoire du couple Fillon qui lui a volé pour se payer un château.
Et la dernière,
un avion de chasse de l'armée belge s'est écrasé ce matin à Pluvigny dans le Morbihan. Les deux pilotes ont pu s'éjecter avant. Hein, je pense qu'à travers cette histoire, vous comprenez pourquoi nous n'avons pas l'arme atomique.
Merci Alex. Le son Rachida Dati était incroyable. Et elle
rien
est
touché, hein.
Coutumière du lapsus parce qu'il y a quelques années, elle avait dit fellation au lieu d'inflation.
Ouais, mais ça c'est
plus sympathique, ouais. C'est plus sympathique. 17h25, vous écoutez France Inter. Michel Escaut est avec nous et on va aborder ce premier sujet. Jour J pour Jean-Luc, donc. Le député insoumis est jugé à partir d'aujourd'hui avec 5 de ses proches. Il est question du fameux épisode du « Défoncez-moi cette porte, la République c'est moi ». Mélenchon est donc jugé pour acte d'intimidation et provocation contre l'autorité judiciaire. Méluche dénonce un procès politique et se pose en Lula du Vieux-Port.
La Slovénie en avait assez de réintroduire ses ours au Groland sans aucune contrepartie. C'est ainsi que notre principauté a eu l'idée de leur offrir en échange un magnifique spécimen de stalinien. Baptisé Jean-Luc Méchancon par les Slovènes, il a rejoint cette semaine son ex-milieu naturel du bloc soviétique. Sans trop de difficultés, puisqu'il s'est aussitôt attaqué à des journalistes dont il est le prédateur naturel.
Enregistrez quoi ? Arrêtez ça, moi ça tout de suite ! Et vous là, vous savez qui je suis ? Vous filmez quoi là ? Je suis un parlementaire, moi. Arrêtez-moi ça tout de suite.
C'est Groland, bien sûr. Michel Escaut, est-ce que vous voyez cet épisode politique de deux manières différentes, ou peut-être d'une seule. S'il y a deux manières, est-ce que vous la voyez en tant que citoyen français devant un député et en tant qu'homme de théâtre devant un comédien? Ah, un député.
Ah non, mais c'est vrai que je vois ça comme non, d'un point de vue presque professionnel. Il y a de la mise en scène, hein. C'était le titre de l'article. Et puis, je suis resté bloqué sur l'hologramme, moi. De toute façon, ça m'a...
Ah, c'est vrai, ça vous a fait quel effet, l'hologramme?
Ça m'a impressionné.
Vous aimeriez jouer à Paris et qu'il y ait des gens dans une salle à Marseille avec votre hologramme?
Il a tout compris,
ce Thomas. Ah oui, c'est vrai, jouer votre pièce, oui. La Dame de chez Maxime, qui pourrait être jouée en même temps à Marseille, à Lille, en hologramme.
C'est ironique ce que vous dites ou pas?
Est-ce que le lien entre la politique et le théâtre vous paraît parfois ou souvent évident?
Oui, non mais c'est évident. Non mais tout ce qu'on fait est politique à partir du moment où on le fait en public, et même si on fait pas de la politique, je sais pas, si on n'a pas de message à délivrer ou quoi, le choix d'une pièce, la mise en scène, la distribution, jouer de cette telle manière ou telle manière, c'est politique. Mm-hmm.
Enfin, et forcément. Dans l'autre sens, le théâtre politique?
Oui, il y a des grandes œuvres. Après, moi j'aime pas quand les choses sont trop arrêtées. Moi j'aime pas donner un message, j'aime que les gens... Enfin, j'aime laisser l'espace aux spectateurs pour qu'ils puissent penser ce qu'ils veulent. Enfin, poser des questions, voilà. Mm-hmm. Ça, je trouve ça très intéressant. Donner les réponses, peut-être pas forcément. Et dans la politique, ils donnent peut-être un petit peu beaucoup de réponses, parfois.
Et dans le théâtre de la politique, parce que c'est un petit théâtre, il y a des personnages, il y a des mises en scène, il y a des histoires qui nous sont fabriquées et racontées. Dans ce théâtre politique, quelle sorte de personnage est Mélenchon? Quelle place il occupe? Est-ce qu'il occupe un premier rôle? Est-ce qu'il vous ferait penser à un personnage?
C'est un matamor. C'est quelqu'un comme ça. Dans la Comédia dell'arte, ce sera un matamor. C'est quelqu'un qui peut être ridicule, mais qui en même temps a une façon de parler comme ça, qui peut être drôle même, hein, parce que je pense qu'il est haut en couleur, quoi.
Ou en couleur.
Pas toujours de bonne foi, peut-être, donc un matamor.
Mais c'est quelqu'un qui, dans son combat, vous a touché parfois, vous a convaincu quelques fois, ou...
Non, mais ça, c'est un autre problème.
Non,
mais pourquoi pas...
Qu'il pouvait avoir l'air ridicule, on va prendre tous les insoumis sur le dos, en disant, je n'irai pas voir la Dame de chez Maxime.
Donc, mais la mauvaise foi, ça peut être très intéressant pour moi, d'un point de vue d'acteur. Je regarde des personnages, moi. Là, je trouve que c'est plus intéressant d'en parler d'un point de vue de personnage.
Oui, ici, c'est l'homme de théâtre qui parle et qui voit la scène. Et la mauvaise foi est donc un prisme par lequel vous...
Voilà.
On vous la fait pas à vous.
Par laquelle vous vous en sortez bien.
Jean-Luc Mélenchon dénonce un procès politique. Les Républicains aussi dénoncent de leur côté, par exemple, la date du procès François Fillon et Pénélope Fillon, juste avant les municipales. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde. Mélanie Bauer, apaisons les mœurs avec la musique.
Oui, jour 3 de détention pour Mélanie Bauer dans Par Jupiter.
Effectivement.
Alors, j'ai lu sur Wikipédia, Michel Lescaut est un acteur français, fils du comédien Jean Lescaut et de Sophie Lescaut, spécialiste de l'Inde. Ah bah, ça tombe bien.
Vous confirmez ou on change de chronique?
Non, c'est vrai.
Ça tombe bien parce que moi, je suis jamais allée en Inde, mais j'ai trouvé un disque de touristes qui nous raconte exactement ce qui se passerait si on y allait.
Il était une fois un grand voyage. David, 38 ans, barbe noire, lunettes rondes, boucle sa ceinture sur le siège 21B du vol 304, à destination de Chennai. Ah, ce voyage en Inde, ça fait longtemps qu'il s'y prépare. Mode avion enclenché, jus de tomate commandé, ça y est, l'avion s'avance sur la piste, se met en position.
Non mais pourquoi je dis ça là? C'est n'importe quoi, c'est demain que je pars. J'aimerais déjà être arrivé, et bim, l'insomnie.
Oui,
là,
ça commence comme ça.
J'ai besoin d'un truc, c'est de dormir, c'est tout.
Oui, alors bon, on n'y est pas encore dans l'avion. D'abord, je vais vous raconter qui est ce David Stank qui vous raconte sa tourista sur disque. David, moi je l'ai connu, il était tout jeune, il s'appelait Tahiti Boy, il revenait des États-Unis, New York, il faisait de la folk améliorée avec la crème de la crème du genre, des chansons dans ce style-là.
My head spinning again, too fast to understand a word of what she meant when she told me.
Alors, il était déjà un petit peu perché et amoureux d'un groupe brésilien des années 60, Os Mutantes. Et hasard de hasard, quand je rencontrais David, je venais d'interviewer le chanteur justement du groupe Os Mutantes, Sergio Dias. Et pour me la péter un peu, parce que je suis un petit peu comme ça, je me la pète, j'organisais la rencontre entre David, émerveillé, et le McCartney brésilien, Sergio. Et miracle, ensemble, ils écrivent un album We Are the Lilies, un projet tellement chouette que Double Miracle chaque, les vedettes se pressent pour y participer. David reçoit des mails en masse, dont un de Jane Birkin, un autre de Iggy Pop, et c'est le conte de fées rock'n'roll. Bon, alors après ça, David Stang compose pour le cinéma, notamment des BO de films de Quentin Dupieux. Et après quelques années de travail de l'ombre, le revoilà avec un disque pour la première fois sous son vrai nom, David Stang. Un disque qui s'appelle Air India, un album virtuose qui ne raconte pas son voyage en Inde, mais la nuit d'insomnie qui précède son départ, tous les films qu'il se raconte avant de partir.
En fait, c'est très très clair, même hyper clair. Depuis quelques jours, j'ai appris à avoir chaud. Donc ça va. Je suis pieds nus, les flaques sont sales, mais bon. Le temple est énorme, le temple est bondé. Je sais que la cérémonie va avoir lieu, c'est pour ça que je suis venu. Ça n'intéresse personne, je suis transparent. La divinité avance sur un chariot. Moteur à explosion. Et la sono est au cul d'un trop grand vélo. La chaleur, le boucan, la fumée, sous les plafonds peints. Il y a des seaux d'eau, il y a des mégots, des pigments et du gibier. Et là, un éléphant.
C'est une soirée diapo, quoi.
C'est délirant. Les chansons s'appellent « Le temple »,« La fatigue et la chaleur »,« Le train »,« Le guide »,« Pondichéry nuit ». On est majoritairement instrumental, mais la musique en raconte tellement. Les morceaux sont à géométrie variable, avec des interludes insomniaques et des solos de l'orchestration et des bruitages. Une bande de sons de films d'auteurs en pas de def, quoi. Un bon disque d'octobre pour s'évader de la fin de l'été. David Stank, Air India, ça sort le 11 octobre.
Merci Mélanie Bauer pour cette découverte. Michel Esco est avec nous. Comédien, il joue la dame de chez Maxime au théâtre de la Porte Saint-Martin. Il y sera d'ailleurs ce soir à 20h. Donc on vous libère à 18h, vous y serez vers 18h30. Qu'est-ce que vous faites entre 18h30 et 20h avant de monter sur scène ?
Je m'échauffe et après on met une perruque. Mmh. C'est long.
Ah oui, c'est très long.
Ouais, elle est longue.
Et qu'est-ce que vous faites pour vous échauffer ?
C'est du stretching.
Ah, oui. D'accord. C'est dire que nécessaire pour le rôle.
Oui, je vous confirme.
Sinon, je meurs.
Voilà. Eh bien, ne mourrez pas parce que les gens veulent venir vous voir au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est du mardi au vendredi à 20h, le samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. Mise en scène de Zabou Breitman avec notamment Léa Drucker, avec André Marcon, Éric Pratt ou Christophe Paou.
Il y a c'est la dame qui joue votre femme.
Anne Rodgers.
Oh, voilà, oui.
Fantastique.
Et Anne Rodgers, donc. Guillaume Meurice.
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes allé faire aujourd'hui?
Eh bien, on va s'amuser un petit peu. Oui, parce que je suis allé au grand salon des parcs d'attractions qui a lieu Porte de Versailles. Et ouais, formidable. Alors, à plein de choses, formidable. Alors, il y a Disneyland, évidemment, le parc de Walt Disney, hein, un brave monsieur qui n'a jamais caché ses sympathies avec les nazis. Alors, faut-il boycotter Picsou chez les nudistes? Ça, il faut demander à BHL. Hein, c'est lui qui décide si on a le droit d'être antisémite ou pas dans ce pays, je vous rappelle. Alors, il y a également le Puy du Fou, formidable, hein, un formidable parc qui retrace ce qui se passe à l'intérieur de la tête de Clara Dupont-Monod. Je vous rappelle que si vous voulez draguer Clara, il vous faut beaucoup de mailles, mais également des cottes de mailles. Et il y a aussi évidemment des forains, beaucoup de forains, facilement reconnaissables, hein, puisqu'ils parlent comme ça. Ouais, c'est super. Allez, on lève les bras, demande un maximum de sensations. Plein de choses pour les professionnels de l'amusement, mais aussi pour les particuliers, dont ce mini golf de fabrication belge. Oh. Et c'est là que ça devient intéressant. Ah, mini golf un petit peu particulier.
Le mini golf d'intérieur. Et ça se joue en cadre complètement obscur, éclairé par des lumières fluo. Et donc tout le parcours devient fluorescent, les balles, on est déplacé dans un monde alternatif sur les thématiques diverses que choisissent nos clients, de la jungle, ou un monde des pirates, ou un monde jurassique.
Ah, il faut quand même un peu de place non, dans son appartement.
En réalité, oui, il faut quand même 400 mètres carrés.
Bon, bah, ça va. Ah, si vous habitez Paris, vu que le mètre carré est à 10 000 boules, bah, vous faites le calcul, voilà, c'est une petite somme, mais avec ça, vous pouvez jouer au mini-golf d'intérieur phosphorescent dans la nuit.
Et c'est pas mal.
Eh ben, faut faire des choix dans la vie, moi j'avais dit, faut savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est s'amuser avec des jeux de simulation à l'arme de guerre.
Des infractis, des répliques.
C'est les répliques parfaites, non?
Oui, il y a un M4 qui est tout à fait le même poids. Voilà, avec un recul, simulation de recul.
Un gamin de 6 ans, il peut manier une arme comme ça?
Disons que ça marche beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France.
Ah bah tu m'étonnes. Non mais c'est vrai, c'est un peu le pays. C'est vrai qu'aux États-Unis, hein, je rappelle que dans les écoles, ils ont peur de manger du fromage français, parce que c'est dangereux, voilà. Mais les fusils d'assaut, ça passe. Hein, ils mangent pas de camembert, mais ils bouffent du pruneau, si on veut résumer. Alors, continuons quand même avec cette belle invention.
Oui, est-ce que ça permet pas de s'entraîner aux tueries de masse?
Oui.
Ouais.
S'ils veulent, ouais, ils peuvent venir jouer, mais on ne saura jamais. Hein. Mais, ouais. C'est pas de tout notre but, c'est ludique.
C'est ludique, mais on ne saura pas si ça peut avoir des effets négatifs.
Les enfants ont toujours joué aux Cowboys and Indians. Hein,
oui, non, mais oui. Mais je sens une petite progression quand même. Hein. On est passé très vite de l'arc en bois au M16. Hein, voilà, ça va se finir. Non, mais voilà, ça va se finir en biberon lance-roquette, cette histoire. Mais c'est ça aussi qui fait la fierté de notre civilisation. L'outil, hein, c'est la fierté. Et tout comme les parcs avec des animaux dedans, ça, c'est notre fierté. On sait dominer les animaux. Ah, quand je dis les animaux, je parle pas des pigeons qui font la queue 8 heures pour une attraction de 20 secondes. Je parle des vrais animaux. Par exemple, un zoo.
Oui, nous avons travaillé avec les zoos et les parcs, pas avec les animaux beaucoup. Bien, nous avons penguins, nous avons lions, zèbres, nous avons...
Vous avez tous ces animaux-là?
Oui, c'est ça.
Et est-ce que ce sont des animaux qui aiment vivre enfermés?
I don't understand the question.
Ah, damned, ça tombe very bad. My English is vraiment so pourri. But il me semblait quand même qu'il speakait very plutôt not bad French, but after my question, beaucoup moins good. C'est dommage. Bon, alors, c'est pas grave. Parlons des animaux dans les cirques à ce moment-là, parce que, bon, bah, tout fout le camp. Hein.
Parce qu'ils veulent plus d'animaux dans les cirques et tout ça, ils les interdisent maintenant. Ça aussi, ça devient un gros problème. Parce qu'un cirque sans bête, c'est plus un cirque.
Alors, pourquoi c'est plus un cirque?
Et moi, quand je joue au cirque, c'est pour voir les spectacles, pour voir les éléphants, les spectacles, les beaux spectacles. Pas le clown, il m'intéresse pas.
Ah là 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 là, la ça. Clownophobie. Ou plutôt, ah là 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 là, les enfants, la clownophobie. Pardon, je débute en clown, mais c'est vrai que ce qu'on veut quand on va voir un cirque, c'est des éléphants. Et même les éléphants, ils veulent ça. Pour eux, c'est une réussite sociale. Ah bah, bien sûr, monter sur un plot sous un chapiteau du parking Leroy Merlin de Meudon, même la famille éléphant, elle est hyper fière. Bah, sa mère, elle dit à ses potes, oui, bah, mon fils Dumbo, bah, il a fait une petite carrière, là, il est en tournée en ce moment. Il a son statut d'intermittent fastoche, l'éléphant. Hein, et en disant ça, je crois pas que je me trompe. Moi, je suis obligé de faire ça pour l'avoir, mon statut d'intermittent. Hein, mais l'éléphant, il a du bol. Pareil avec les orques et les dauphins dans les parcs à cétacés, hein, n'est-ce pas, monsieur?
Les gens qui s'en occupent depuis des, même 10 ans ou plus sont quand même des gens passionnés. Il y a des vétérinaires derrière ça. Le bien-être animalier est quand même pris en compte.
Est-ce que la place d'un dauphin, c'est vraiment dans une piscine?
Je pense qu'effectivement, ce type de parc peut exister dans les endroits où le parc n'est juste un endroit où on les met en avant, mais n'est pas leur lieu d'habitation clos.
Ouais, qu'ils habitent dans la mer et qu'ils viennent bosser le matin et qu'ils repartent le soir.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est un sujet délicat.
Ah ouais, c'est délicat. Ouais, non, c'est pas mal, mais c'est délicat parce qu'il y aurait des histoires avec la CGT Dauphin. On sait, non, mais ça verra de faire chier, on sait comment ça finit. Non, le mieux, ça reste de boycotter. Hein. Je veux dire, foutons en l'air ces vieilles habitudes mortifères et passons à autre chose. Ou plutôt, attention pour un nouveau départ.
Guillaume Meurice, merci, c'est tout faire. Il est 17h42 sur France Inter. Michel Esco est avec nous avant de se rendre au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et on va aborder cet autre sujet avant de laisser le micro à Clara Dupont-Mono. Le dernier film de Tarantino a fait surgir le mot male gaze dans le débat. Male gaze, le regard masculin dominant posé sur la femme. Une théorie qui démontre que les grands classiques hollywoodiens ont ce site commun. C'est l'homme qui est porteur du regard et la femme n'est que l'objet du regard. Le tout pour le seul plaisir de l'homme. Cela vaut dans tous les arts et particulièrement au cinéma.
T'es morte, tu vois. Il vient reconnaître ton corps. Il a encore du désir pour toi. C'est important qu'il te voie nu. C'est aussi simple que ça.
Enfin, moi, mon mec, il meurt. Je vais le voir à la morgue. Le premier truc que je demande à voir, c'est pas sa bite. Ben, chacun sa vision de la simplicité. Hein.
Bon, Béatrice, il y a un truc que je comprends pas, là. T'as passé ta vie à jouer des folles et des cannibales. Et là, je te demande d'être nu quand t'es morte et tu peux pas faire ça.
Non, je peux pas, non.
Tu seras magnifique, fais-moi confiance un peu.
Attends, c'est pas le problème, j'ai juste pas envie d'être comme un tas de viande sur une table d'autopsie. C'est quoi là ton plan voyeur nécrophile?
La Béatrice étant Béatrice Dalle, bien sûr, dans 10%. C'est un épisode réalisé par Marc Fitoussi, diffusé sur France 2. Male gaze, donc, c'est un concept qui a déjà 50 ans, que l'on doit à une théoricienne du cinéma qui s'appelle Laura Mulvey, qui dit l'homme contrôle la part fantasmatique du film et apparaît ainsi comme le représentant du pouvoir. Vous, à quel moment vous avez pris conscience que cinéma, théâtre, peinture, les arts en général, reproduisaient ce regard dominant du masculin sur le féminin?
Oulala,
ouais, il a pris conscience.
Ouais, si, je peux en prendre conscience. Moi, je constate qu'il y a aussi des choses, il y a des exceptions. Enfin, je sais pas, moi, les plus gros succès au blockbuster, c'est les films de James Cameron, par exemple. Mm-hmm. Et c'est vrai que les héroïnes dans les films de James Cameron, pardon, bah, c'est assez, je sais pas, on peut s'identifier quand on est un garçon, une fille, et je sens pas qu'il y ait ce regard-là, par exemple. C'est les plus gros succès du cinéma. Oui. Enfin, que ce soit dans Titanic, dans...
C'est une théorie, donc c'est une généralité aussi, hein.
Oui, voilà.
Enfin, bah, Titanic, c'est un peu quand même Rose, c'est un peu la nana passive.
Pas du tout.
Ah non,
elle
le sauve
et tout.
C'est un fantasme, alors je l'avais fantasmé.
Ah ouais, complètement. Ah non, c'est elle qui se rebelle contre sa famille et
celle qui s'ennuie un peu parce que...
Elle a beaucoup plus de cran, même que le personnage masculin. Comme par exemple toutes les héroïnes de Hitchcock, elles sont conquérantes, séductrices, c'est elles qui mènent le jeu.
On sentait que ça ferait débat, c'est pour ça que...
Moi, si je peux me permettre, je trouve que cette théorie se heurte à deux petits soucis. Le premier, c'est de partir du principe que le spectateur n'a aucune distance critique.
Alors c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont voir le film.
Et ensuite, c'est s'insurger de ce que la caméra serait donc voyeuriste et qu'elle elle rendrait chose le corps des acteurs.
Alors
actrices
on voit
à
beaucoup
l'écran.
Plus souvent le cul des actrices que cul des acteurs. Pardon.
On voit de plus en plus de cul d'acteurs.
Mais oui.
Est-ce que
mais
c'est pas dû au fait qu'il y ait plus de réalisateurs masculins? Bien entendu, c'est sans doute ça la réponse. Mais donc moi, au lieu de changer cette vision-là, il faudrait qu'il y ait plus de films réalisés par des femmes. Je pense plutôt.
Mais les femmes pourraient montrer des corps.
J'ai une vraie question pour notre invité par rapport à la pièce.
Oui.
Est-ce que Fedo était féministe? Parce qu'il y a deux beaux rôles de femmes.
Bah oui. Non, mais surtout, par exemple, ça peut être un objet de désir, la môme crevette.
Carrément, et puis.
Mais c'est aussi une femme désirante. Non, mais c'est une femme désirante et la manière dont le joue, par exemple, Léa avec cette légèreté, cette grâce et cette délicatesse fait qu'il n'y a aucune vulgarité, par exemple, dans le fait qu'elle puisse affirmer son désir et qu'on ne se dise pas, oh, c'est une, je sais pas quoi, une traînée ou des mots qui
seraient terribles. Elle dit des choses qui, à mon avis, pour 1899, sont surprenantes. C'est-à-dire qu'elle dit aux hommes, moi, le plaisir me va mieux que décider de passer ma vie avec quelqu'un, parce qu'elle va à un mariage, elle se moque du mariage. Ouais. C'est quand même tôt pour faire ça.
Oui, c'est tôt, et du coup, oui, c'est une figure comme ça, très libre.
Mais au théâtre, il y a toujours beaucoup, beaucoup plus de rôles pour les hommes que pour les femmes.
Oui, c'est
par
vrai.
Exemple, il y a
des
statistiques qui sont...
Non, mais c'est vrai.
Et votre femme, par contre, en revanche, vous la traitez un peu moins bien.
Je la traite moins bien, mais
je parle pas de vous, je parle
de petit pour Anne Rodgers.
Mais elle se venge, elle se venge.
Bien sûr qu'elle a
fait. Elle se venge et elle a un rôle magnifique. Et finalement, le regard qu'il porte sur les hommes est pas très classe non plus.
Enfin, c'est pas faux. Non, c'est pas faux.
Voilà.
La polémique est partie du film, du dernier film de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino,
yes.
parce qu'il filme les courbes de Margot Robbie qui sont sublimes, qui joue Sharon Tate. Ouais.
On voit aussi à un moment Brad Pitt
tout nu.
Enlever son t-shirt pour changer juste une antenne de TV. Moi, j'ai déjà changé d'antenne de TV, franchement, pas nécessaire.
Et pour ceux qui verraient un male gaze, il y a l'antithèse cette semaine, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, avec le film dont on a parlé lundi en recevant Adèle Haenel, Portrait de la jeune fille en feu, qui serait l'antithèse du male gaze.
Du coup,
là, on est d'accord.
Réalisé par une femme.
Du coup, là, on est d'accord.
Bah oui,
c'est bien.
C'est tout.
Ben, réaliser un film, Charlie Bonnacker.
Mais voilà.
Et montrez-nous vos désirs que nous voyons ça.
Est-ce que vous voulez encore rebondir sur la môme crevette peut-être ? Il nous reste un tout petit peu de temps.
J'ai trouvé justement que ce personnage, parce que évidemment j'avais plus revu la pièce depuis la force de MeToo, et je trouve justement qu'elle prend cette place-là et elle dirige les hommes. Tous les hommes de la scène se laissent piéger par elle à un moment ou un autre.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est un objet de désir. On est tous comme ça à... Enfin, elle nous mène à la baguette, mais en même temps, elle affirme son désir. C'est très beau, je trouve. Ouais, elle a cette liberté-là.
Michel Esco, elle a aussi cette liberté de nous choisir des livres.
C'est un plaisir.
Clara Dupont-Monod. Oui, parce que l'actualité, alors c'est un peu plus dur l'actualité, mais c'est aussi le durcissement de ton d'Emmanuel Macron à propos de l'immigration, propos tenu lundi. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, Micha, mais c'était assez costaud. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est que Emmanuel Macron, étant quand même malgré tout un littéraire, il aurait quand même dû savoir que s'il y a bien un thème que la littérature honore depuis toujours, c'est l'immigration. Au Moyen-Âge, le personnage du chevalier, il est toujours itinérant, tout comme Don Quichotte, tout comme Candide de Voltaire, sans parler de toute la littérature sur l'exil, il y a une littérature du mouvement. Alors, cher Emmanuel Macron, puisque vous écoutez cette émission, je crois, j'ai ici votre
rédacteur-chef.
Voilà, j'ai votre prochain livre de chevet. Il s'appelle La mère à l'envers de Marie Darrieussecq et il raconte comment une femme normale, rangée, décide un jour d'accueillir un jeune migrant. Et en choisissant cette femme qui s'appelle Rose, qui habite en province, dans une maison, qui est mariée, deux enfants, qui est installée, et Younes, qui vient, lui, du Niger, en fait, Darrieussecq, elle choisit de confronter l'immobilité, en fait, au mobile. Donc voilà, et le résultat, c'est un sublime équilibre entre deux forces contraires, en fait, une force statique et une force dynamique, qui vont se croiser et, en fait, qui vont se stabiliser l'une et l'autre, se nourrir et se stabiliser. Alors, je préviens tout de suite les mauvais esprits qui ne manqueront pas ici, mais c'est pas du tout Boboland qui découvre le quart monde. Rose se dit pas, ah bah, Younes, musulman, je vais le convertir à une autre religion, par exemple, le véganisme, ni non plus à la méditation. Non, ce serait assez mal connaître l'écriture de Darrieussecq, parce que cette écriture, en fait, elle est très drôle. C'est pour ça que je pense que ce livre vous plaira, Micha. Elle doit avoir Darrieussecq des origines anglaises parce qu'elle a toujours une espèce de tendre ironie. C'est très doux. Elle a une espèce de distance. Elle pratique l'art très délicat du décalage, très loin de la vanne mortier que certains confondent avec de l'humour, mais que personne ici ne se sente visé. Alors, juste un exemple, la première partie du livre se déroule sur un paquebot. Rose, elle est en croisière avec ses deux enfants. Et il y a une description du décor égyptien hyper kitsch, le menu escapade, les décors de la discothèque Scheherazade, avec des poufs roses et des rideaux en peluche mauve qui feraient passer Kim Kardashian pour une débutante en première année de cursus mauvais goût. Et de la même façon, quand Rose ramène dans sa maison du Pays Basque, on est très loin des bons sentiments, on est loin aussi d'une démarche militante, on est juste dans un salon familial avec Rose qui masse les chevilles de Younes, il les a brisées quand il était à Calais, tandis que le mari de Rose, très gentil mais assez alcoolique, s'endort doucement sur sa bouteille. Et avec ce même thème, moi c'est ça qui m'a intéressé, ce thème c'est quoi ? C'est l'étranger qui arrive dans une vie et qui vient la percuter. Qu'est-ce qu'ils auraient fait les autres auteurs avec ce thème-là ? Un Gustave Flaubert, il serait parti en toupie complètement sur les femmes du Niger, il aurait accablé Younes de questions, lui qui avait tellement dégusté les femmes égyptiennes quand il est parti en Égypte, et d'ailleurs il en a ramené la syphilis. Mais une autre...
c'est
vrai.
C'est un bon souvenir.
Annie Ernaux, par exemple, elle se serait focalisée sur la condition l'audition de Rose, cette femme qui porte les autres. Et j'ai pris une femme dans La Femme gelée d'Annie Ernaux. Elle dit « Je suis devenue la gardienne du foyer, la préposée à la subsistance des êtres ». Des mots que Rose aurait pu avoir. Elle qui gère tous les repas et qui fait toujours attention à ce que Younes, lui, mange pas de porc. Alors après, à Michel Houellebecq, lui, ça aurait été plus simple, il aurait balancé à Younes la religion la plus con, c'est quand même l'islam, phrase culte. Mais un autre écrivain...
C'est la mine de Marianne, voilà, en plus.
Un autre écrivain que j'aime tellement, qui s'appelle Joseph Conrad, que vous connaissez peut-être, Micha, qui a écrit Au cœur des ténèbres, qui est devenu Apocalypse Now, le film. Il aurait certainement bloqué sur l'image de Younes sur un bateau lors de son périple, justement, pour gagner l'Europe, et il aurait pu dire, comme dans Au cœur des ténèbres, je cite « Mon isolement parmi tous ces hommes, la mer huileuse et languide, semblait me tenir à distance de la vérité des choses. » Sublime. Mais vous voyez, comme il y a mille façons d'aborder ce thème de la migration, et ben Dariussec, elle a choisi ce très beau risque de la bienveillance. Je vous redonne les références. La mer à l'envers de Marie Dariussec est parue chez POL.
Merci Clara Dupont-Monod pour ce choix de l'écriture.
Le risque de la bienveillance. C'est assez beau comme locution.
J'ai travaillé.
Michel Escaut avec nous. Et surprise, Françoise Sagan publie aujourd'hui un nouveau roman intitulé Aux quatre coins du cœur. Elle nous revient 15 ans après sa mort par la magie des trouvailles dans les greniers, et des livres posthumes, sorte de PMA post-mortem littéraire, dans le fond.
Regarde ces vieux livres, on approche du trésor.
Le grimoire. Tout est perdu.
J'ai vu, ça vient d'ouvrir la huppe. J'ai un peu les foies. Il ne risque rien à rien. Pas sa première. Hup, non ! Laissez-nous ! Hup !
Vois-tu un grimoire ?
Oh mon Dieu!
Quoi? Qu'est-ce donc?
Il y a un mot! Votre point de Montmirail, si vous arrivez jusqu'ici, appelez d'urgence aux heures de bureau 68-77-39. Demandez monsieur Ferdinand.
Ça s'est passé comme ça. Valérie Lemercier, Jean Reno, bien sûr, les visiteurs de Jean-Marie Poiré. Quel effet cette nouvelle a produit sur vous, Michel Escaut, qu'on ait retrouvé un roman inédit de Françoise Sagan?
Pas grand-chose, je ne le savais pas avant d'avoir reçu le mail. Bref.
On explique aux auditeurs qu'on envoie les sujets avant à l'invité pour qu'ils n'arrivent pas comme ça.
Non, mais écoutez, c'est.
Gros gens comme devant, je dirais.
Il faut le lire, ça doit être. C'est très bien.
Oui, ça vous a pas un petit peu.
Non, mais je connais pas très bien Françoise Sagan. Ouais. En fait, j'ai pas lu beaucoup de livres d'elle. Je me rappelle d'un texte comme ça qu'elle avait écrit sur Tennessee Williams. C'était très beau. C'était sur deux écorchés. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de Françoise Sagan.
Et vous, de quel auteur vous rêveriez qu'on retrouve éventuellement un manuscrit, qu'on publie une pièce inédite, un roman inédit.
Mais je ne sais pas s'il faut chercher.
Par exemple.
Je ne sais pas, parce que j'avais pensé à ça, à des gens qui ne veulent pas être publiés, puis après on trouve ça après leur mort. Je ne sais pas, je sais pas très bien quoi en penser. Ça ne me mettait pas très à l'aise en même temps. Je me dis si on n'a pas envie de publier quelque chose, c'est que c'est peut-être pas... Enfin, je ne sais pas, mais je ne veux pas dire parce que je ne sais pas dans quelle mesure...
C'était peut-être inachevé, parce qu'elle est laissée au fond d'un tiroir et elle les reprenait. Voilà. Mais juste un petit mot sur le titre, sans aucun barrage moral. Les quatre coins du cœur.
Ça fait débat toute la journée dans le bureau. Voilà. Les filles trouvent que le titre n'est pas exceptionnel.
Voilà.
Moi, je l'ai défendu.
Ah, vous l'avez défendu.
Les quatre coins du cœur. On n'était pas convaincus.
Non.
Non, on va pas apporter un jugement sur un titre de roman de Françoise Sagan quand même.
Les polémiques, c'est autre chose que les grandes gueules ici.
C'est demander l'avis de quelqu'un qui est lettré.
Je ne suis qu'un interprète.
C'est du ressenti.
Et vous, Clara?
Alors,
je vous pose pas la question sur le titre.
Oui.
Quand vous avez appris hier soir par Le Monde et France Inter que il y avait un roman inédit de Françoise Sagan, ça a dû vous faire quelque chose.
Ah oui, moi, mon cœur a battu parce que comme elle avait cette façon d'écrire, en fait, qui était justement de écrire quelque chose, reprendre, mettre de côté, peut-être passer à autre chose, mais ça veut pas dire que le manuscrit, elle n'en était pas contente. Et du coup, d'ailleurs, son fils raconte très bien qu'il y a des trous, des fois, elle met trois petits points, il a fallu qu'il retrouve le mot juste. En plus, il y a une sorte de jeu de piste, en plus de fils à mère, que je trouve très beau, où il a refabriqué sa parole. Et moi, j'ai fait partie de ceux que ça a beaucoup ému. Et le titre, malgré mes réticences, ne m'arrêtera pas pour
le lire.
Maintenant.
Très bien. Michel Escaut, avant d'aller rejoindre le théâtre de la Porte Saint-Martin pour jouer la dame de chez Maxime, accepteriez-vous de lire du Visorek?
On propose un sketch à l'invité en fin d'émission. Alors, on est parti d'une info que votre père, Jean Lescaut, a prêté sa voix à Maître Yoda dans Star Wars depuis la menace fantôme. Alors, on a imaginé une histoire, les politiques français qui défileraient devant le bureau de Maître Yoda pour apprendre la sagesse. Vous êtes Maître Yoda. Ah. Charline sera Marine Le Pen, Guillaume Jean-Luc Mélenchon et Geoffrey Emmanuel Macron.
Ça existe, hein, ça s'appelle Jacques Attali.
Enfoncez-moi cette porte !
Entrez, vous pouvez, car ouverte est la porte.
Ah oui, bon, ça va, oui.
D'accord. Nerveux vous êtes, je pense.
Ben, j'ai rendez-vous devant le juge et les gens de mon équipe trouvent que je suis un petit peu trop...
énervé.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
La sérénité vous aurez, si du temps vous me consacrez.
Attends, c'est qui le consacré, là ? Hein, c'est ma personne qui est sacrée, d'accord ?
Non, je voulais dire, si du temps vous m'accordez, la force, je vous montrerai.
Ouais, ben, t'inquiète pas, mon petit bonhomme, la force, je l'ai, tiens.
La force mentale.
C'est quoi ta solution pour moi ?
La camomille, vous avez essayé.
Oh là 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 là, mais c'est Maître Yoda Moretti, c'est ça ?
Le suis-je ou ne le suis-je pas ? Telle est la question. Suivant.
Bonjour !
Ah, Marine Le Pen, je suis ton père.
Hein ?
Non, humour de Jedi. Alors, qu'y a-t-il de nouveau du côté obscur ?
Ça s'obscurcit de plus en plus. J'ai un problème avec ma nièce. Elle veut prendre ma place. Elle se prend pour moi, mais en plus jeune.
Disparaîtra la fougue de votre nièce quand, sur votre père, l'exemple vous prendrez.
Oui, alors j'ai aussi un problème avec mon père. Il veut aussi prendre ma place.
Disparaîtra le poids de votre père quand, sur votre mari, l'exemple vous prendrez.
Oui, alors j'ai aussi un problème avec mon mari en ce moment.
Dites donc, compliqué est votre famille.
Oui, d'ailleurs, quand j'ai un coup de mou, je pense à Yann Moix pour aller mieux.
Solitaire est votre nature. Et violente est votre envie, ou ne l'est-elle pas ?
Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, lui ?
Bon, allez, au suivant.
Oui, bonjour. Emmanuel Macron, champion de la Terre.
Enchanté, Maître Yoda, champion des étoiles.
Il n'y a pas de carabistouille, vous êtes bien le CEO de la Zénitude.
Hein ?
Je voudrais upgrader mon step de knowledge pour faciliter mes relations avec mes N-1 et N-2.
Hein ?
Je suis pas assez clair.
Oh là là, incompréhensible est votre projet.
Mon projet !
Calmez-vous, vieux, je suis, mais sourd, je ne suis pas.
Pardon, mon projet, c'est d'arriver à faire passer des réformes de droite à un public de gauche.
Indécis est votre nature et ambiguë est votre envie, ou ne l'est-elle pas ?
Hein ?
Moi aussi, Galimatia, en dire, je peux.
Merci, Michel Lescaut.
Vous avez été impeccable.
Nickel.
C'est mon père.
Oui. Ça doit être amusant d'entendre ça.
Bah très. Il le faisait très bien.
Bah hein. Oui, c'est pour ça qu'on s'est dit.
Michel Lescaut dans La Dame de chez Maxime, d'après la pièce de Georges Feydeau, dans une mise en scène de Zabou Breitman, au théâtre de la Porte Saint-Martin, donc. Merci beaucoup, Michel Lescaut.
Merci à vous.
Merci à tous, les amis. À demain, nous recevons l'économiste Thomas Piketty.
Ouais, pika pika pika, il est adorable.